Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le pape François est en Birmanie. C'est le premier voyage d'un chef de l'église catholique dans ce pays à majorité bouddhiste, actuellement secoué par la crise des Rohingyas. Les Rohingyas, ce sont les membres de cette minorité musulmane qui ont été plus de 600 000 à fuir vers le Bangladesh voisin pour échapper à la répression et aux exactions dont ils font l'objet de la part de l'armée birmane. Cela dure depuis le mois d'août. Un accord a été signé récemment entre la Birmanie et le Bangladesh pour mettre en place les conditions du retour des réfugiés, sans que l'on sache vraiment si cela va être efficace. Et y a-t-il une vraie volonté d'arrêter cette crise des Rohingyas ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous rejoignent aujourd'hui. Avec nous en studio, Martin Michalon, bonjour.
Bonjour, bonsoir.
Vous êtes doctorant en géographie au Centre Asie du Sud-Est, rattaché à l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Et par téléphone, Jean-François Dubost, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste et responsable du programme Protection des Populations à Amnesty International France. D'abord un point sur la situation. Près de 650 000 personnes, en tout cas plus de 600 000, ont fui les exactions de l'armée birmane, des villages brûlés, des viols. Il s'agit de nettoyage ethnique selon l'ONU. Jean-François Dubost, quelle est la situation à l'heure actuelle selon vos informations? Ces exactions, est-ce qu'elles continuent?
Écoutez, oui, il y a quand même encore des atteintes portées aux biens et aux personnes à l'encontre donc des Rohingyas. C'est vrai que de fait, la majeure partie d'entre eux, en tout cas dans cet État qui est concerné par ces crimes contre l'humanité, parce qu'il s'agit réellement de crimes contre l'humanité. On parle de nettoyage ethnique, mais derrière il y a vraiment ce crime très lourd en droit international, hein, qui est une atteinte profonde à la dignité des personnes. Et la majeure partie de ces personnes, évidemment, comme vous l'avez signalé, ont trouvé refuge au Bangladesh. 650 000, c'est quand même un nombre extrêmement important de personnes qui vivaient jusqu'à présent dans cet état d'Arakan au Myanmar.
Alors, on va détailler un petit peu toutes ces notions juridiques et notamment de crimes contre l'humanité. Martin Michalon, ce n'est pas exactement une nouveauté ce genre d'exaction de l'armée birmane contre les Rohingyas. Ça fait des années que ça dure, il y a des épisodes plus ou moins chauds et c'est pas le premier.
Oui, tout à fait. La question Rohingya, avec plusieurs guillemets quand même, c'est une question très ancienne qui remonte déjà à l'époque coloniale. Dès les années 30-40, il y avait des tensions entre bouddhistes et population musulmane, en bonne partie parce que, sans trop rentrer dans l'histoire, elles avaient été amenées depuis l'actuel Bangladesh par les populations, par les colons britanniques. Et donc voilà, c'est les Britanniques qui ont amené cette nouvelle population dans l'état d'Arakan. Et donc, dès les années 40, il y avait des tensions qui ont pris une nouvelle direction avec l'indépendance. À souligner que c'est après l'indépendance que les Rohingyas ont commencé à se désigner comme tels. En fait, le terme de Rohingya est relativement récent en fait dans l'histoire. Et les ethnologues, les historiens considèrent que c'est un terme qui est utilisé dans des visées en bonne partie politiques, parce que en Birmanie, pour exister politiquement, il faut être une ethnie constituée. Et donc, pour exister politiquement, cette population-là a décidé de s'appeler Rohingya, droit que leur dénient actuellement les Birmans.
Oui, le mot Rohingya est tabou dans le pays, hein. C'est d'ailleurs pour cela que le pape a été invité à ne pas le prononcer au cours de son discours aujourd'hui, invité à ne pas le prononcer par les catholiques birmans, hein, principalement. On parle de Bengali, c'est quoi la signification,
Alors en fait,
Martin Michalon ?
Ce qui est intéressant, c'est que Rohingya, en Bengali, ça veut dire Arakan. Donc en fait, les populations Rohingya se sont donné le nom de leur région de destination, puisqu'ils ont migré de l'actuel Bangladesh jusqu'à l'Arakan. Donc, ils ont bien voulu insister sur leur ancrage dans l'Arakan et montrer que ce sont des populations de l'Arakan.
Ça veut dire que c'est presque un État-nation, en fait. C'est le but qui est recherché.
Oui, ils veulent montrer qu'en fait, ce sont des gens d'ici. Ils veulent souligner que ce sont des populations de Birmanie à part entière. Et à l'inverse, quand les Birmans les appellent Bengali, ils sous-entendent que ce sont des populations qui viennent du Bangladesh. Donc ils accentuent, ils mettent l'accent finalement sur le caractère exogène de ces populations. Et c'est pour ça que les Birmans accusent les Rohingyas de vouloir entrer, entre guillemets, par la fenêtre dans la communauté nationale, par derrière, alors qu'il n'en aurait pas le droit en théorie.
Jean-François Dubost, est-ce que justement cette façon de dénier presque l'existence même des Rohingyas, c'est pas le premier des crimes dont vous parliez ?
Si, bien sûr, d'ailleurs c'est ce qui nous a conduit, alors c'est assez ancien effectivement, hein, puisque déjà une loi de 82 empêchait l'accès à la citoyenneté, et en tout cas la rendait extrêmement difficile, y compris l'enregistrement, enfin, et notamment dans cet état où depuis même 2012, la façon de mettre en œuvre cette loi sur la nationalité, la citoyenneté, pardon, a rendu extrêmement compliqué l'enregistrement des personnes, les nouveaux-nés, y compris les personnes qui sont à l'extérieur de l'État pendant qu'il y a des recensements, enfin, tout est fait effectivement pour les mettre à part et les séparer du reste de la société. Et effectivement, premier des crimes, en tout cas, c'est ce qui nous a permis adosser à tout un ensemble de lois, de mesures, de pratiques, de comportements de l'administration birmane, à conclure qu'il s'agissait d'un crime contre l'humanité, mais un crime d'apartheid, qui répond à une définition précise. C'est vraiment un système institutionnalisé qui vise à opprimer systématiquement, à dominer un groupe social, à créer les conditions d'une ségrégation, hein, d'une mise à part, d'un retrait du corps social de cette ethnie-là, des Rohingyas. Donc oui, nous sommes face effectivement au cœur de la question, à savoir celle de l'identité de ces populations qui est complètement niée par le pouvoir central.
Et la situation juridique de ces musulmans Rohingyas, c'est qu'ils sont tout simplement apatrides. Ils n'ont pas la nationalité birmane ni bangladaise. C'est le cœur du problème, ça, Martin Michalon. Ils n'ont pas d'existence légale quelque part.
Oui, tout à fait. La loi de 1982 leur a retiré le peu de citoyenneté qu'ils avaient en Birmanie. Et donc, depuis cette date-là, ils n'ont aucune existence légale en Birmanie. Et puis, sachant qu'une bonne partie d'entre eux habitaient déjà en Birmanie depuis des décennies, puisqu'une bonne partie de ces populations-là sont arrivées en Birmanie au 19e siècle, au début 20e, durant la colonisation. Donc, ils ont perdu une bonne partie de leur lien avec le Bangladesh. Le Bangladesh n'avait aucune raison de reconnaître comme Bangladais des personnes qui étaient nées en Birmanie il y a de ça 5 décennies, par exemple.
Quel est le but de l'État birman dans l'État de l'Arakan ? On parle de nettoyage ethnique. Il faut être très prudent avec les concepts juridiques et notamment de crimes contre l'humanité. Nettoyage ethnique, Jean-François Dubost, c'est pas du tout équivalent à un génocide.
C'est pas équivalent à un génocide. Oui, nettoyage ethnique, c'est vraiment la formule que l'on retrouve pas d'ailleurs nécessairement dans les textes juridiques comme le statut de la Cour pénale internationale, qui aujourd'hui est un peu le texte, la pierre angulaire du droit international pénal, qui permet de réprimer des crimes extrêmement graves. Néanmoins, l'ONU l'a utilisé hein, comme un exemple typique de nettoyage ethnique. Mais derrière ça, en fait, il y a des actes, et ces actes-là qui sont les exécutions, la torture, les déplacements forcés, l'usage des violences sexuelles, les viols, la destruction des biens, les persécutions en raison de la religion, de l'origine, tous ces actes-là sont, dès lors qu'ils s'inscrivent dans une attaque généralisée et systématique contre une population civile, deviennent alors des crimes contre l'humanité. Ce que nous avons documenté, ce que l'ONU a pu documenter, ce que d'autres organisations non gouvernementales ont pu documenter, eh bien, révèle qu'effectivement, dans cet état-là de l'Arakan, l'armée s'est rendue coupable de crimes contre l'humanité. Nous ne prononçons pas, pour répondre à votre question, sur la notion de crime de génocide, parce que là, il faudrait démontrer, mais on va s'y atteler, pour le déterminer ou non, il faudrait démontrer qu'il y a eu une intention de faire disparaître une partie de la société, un groupe de personnes. Et donc on est sur quelque chose de très précis aussi, de très, très grave en termes de responsabilité. Donc pour l'instant, on n'a pas récupéré ces preuves-là. Peut-être qu'elles n'existent pas, peut-être qu'il n'y a pas cette intention, mais c'est quelque chose sur lesquels on va travailler, qu'on va tenter de vérifier dans tous les cas.
Martin Michalon, je reviens vers vous. Quel est le but de l'État birman dans l'État de l'Arakan ? Nettoyage ethnique, génocide ? Quel est l'objectif des autorités birmanes ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Dubost sur le fait qu'il faut utiliser les termes avec énormément de prudence, surtout dans un contexte aussi sensible que le contexte birman. Pour moi, j'élargirais peut-être un petit peu la focale. Il ne faut pas oublier que les attaques contre les Rohingyas ont été causées, c'est avant tout une réponse de l'armée birmane à des attaques par des groupes militants.
Il y a eu une révolte de groupes militants Rohingyas au tout départ de cette affaire.
Voilà, donc des...
Mais pas avec la même ampleur. évidemment.
Une guérilla plutôt bien entraînée, plutôt bien financée, qui est venue du Bangladesh et puis qui a lancé des attaques contre l'armée. Et donc, on s'est retrouvé dans une opération de type relativement classique en Birmanie, finalement, de contre-insurrection de la part de l'armée birmane, comme ils ont pu le faire dans l'État Karen, dans l'État Shan, comme ils le font actuellement dans l'État Kachin. Alors, ils le font peut-être avec une intensité plus importante que d'habitude, avec un caractère systématique plus important que d'habitude, mais en tout cas, ils se livrent à ce genre d'activité qu'ils ont pratiqué depuis des décennies, sans aucune retenue, on est tout à fait d'accord, mais c'est une opération relativement classique de contre-insurrection, il me semble.
Jean-François Dubost, vous avez constaté, vous, à Amnesty International, cette guérilla Rohingya?
Oui, alors le fait est qu'on a eu on a souhaité documenter aussi ces attaques-là. C'est quand même assez compliqué sur le terrain, d'autant qu'on a eu un accès limité dans le temps. Donc on a malheureusement pas pu avoir l'accès à toutes les informations qui nous auraient permis de mettre en regard, pas en balance, parce que je vais revenir sur ce point-là, mais en regard effectivement les agissements de cette armée ou de cette guérilla Rohingya. Mais préciser quand même que la réaction de l'armée et des forces de sécurité birmanes était totalement disproportionnée. On est dans le cadre d'une représailles qui sont interdits par principe, les représailles sur les populations civiles, mais surtout les moyens déployés et les conséquences que l'on connaît bien sont totalement disproportionnées par rapport à l'engagement de forces armées à l'encontre des forces de sécurité birmanes. Donc là, il y a déjà un élément qui permet d'indiquer qu'on est effectivement toujours sur cette piste et trace de crimes contre l'humanité, sans parler ensuite du fait que simplement, dans le droit de la guerre, que ce soit un conflit comme en Birmanie ou un conflit entre deux États, il est impossible de s'en prendre aux populations civiles. Or là, c'est clairement ce qui a été fait.
Alors, on en vient au cœur de notre question. Est-ce qu'il y a une volonté politique réelle de la part de toutes les parties en présence et de ceux qui sont à l'extérieur de mettre fin à cette répression des Rohingyas, à cet exode des Rohingyas? On a beaucoup parlé, évidemment, d'Aung San Suu Kyi, qui est la dirigeante de la partie civile du gouvernement birman, parce qu'elle est prix Nobel de la paix et parce que certains de ses partisans ont été un petit peu déçu par sa timidité sur cette question. Martin Michalon, quelle est la position d'Aung San Suu Kyi et qu'est-ce qu'elle peut faire finalement?
Alors, je pourrais pas trop me prononcer sur sa position, parce qu'il est très difficile de la savoir. C'est très énigmatique pour beaucoup d'observateurs. En tout cas, une chose est sûre, elle a les mains liées. Elle a les mains liées par l'armée. C'est l'armée qui mène le rythme sur cette, comme dans beaucoup de choses d'ailleurs. C'est l'armée qui a mené le rythme de la démocratisation du pays. C'est l'armée qui a permis la tenue d'élections démocratiques en 2015. Et là, c'est l'armée qui dicte la réponse à avoir dans cette crise. Donc, une chose est sûre, si Aung San Suu Kyi condamne trop fermement, ou condamne juste fermement ce qui se passe, les agissements de l'armée, elle va se mettre à dos une institution qui est extrêmement puissante.
Qui est même toute puissante, on peut le dire.
Absolument, qui est toute puissante. Et en apportant ne serait-ce qu'un petit peu de soutien à la cause Rohingya, je pense que beaucoup de ses détracteurs franchiraient le pas très rapide de l'assimiler à un soutien à des musulmans assimilés à des terroristes. Et donc, assez rapidement, je pense qu'on accuserait Aung San Suu Kyi de trahir la cause nationale et de fragiliser l'unité nationale, ce qui serait très dangereux pour elle et pour l'avenir du pays.
Jean-François Dubost, Aung San Suu Kyi a longtemps, et elle défend d'ailleurs peut-être toujours les droits de l'homme. Est-ce que vous êtes déçu par sa position un peu mouvante et par son action?
Déçu, c'est-à-dire que si l'on regarde la situation sur le terrain, on attend d'un gouvernement, et quelle que soit la personnalité qu'il incarne, de réagir différemment. C'est surtout ça qui compte pour nous. Je rejoins parfaitement Martin Michalon sur le fait qu'elle a les mains liées, puisque la majeure partie des pouvoirs concernés par la répression sont aux mains de l'armée. Ceci dit, on considère malgré tout qu'en tant que membre d'un gouvernement, certes civil, et bien justement en tant que civil, elle devait au moins faire des déclarations montrant qu'elle n'ignorait pas la situation. Or, le non-usage du terme Rohingya, des déclarations d'elle ou de son administration, de son gouvernement du moins, sur le fait qu'il s'agissait uniquement d'opérations de l'armée contre des terroristes, alors que manifestement c'était des civils qui étaient en train d'être massacrés et poussés à l'exil, des accusations aussi portées sur certaines organisations humanitaires ont plutôt donné l'impression qu'elle attisait à un moment donné le feu et les tensions, loin donc d'une politique d'apaisement. Il s'avère que suite à la visite du pape, les propos qu'elle a tenus, même s'ils sont très généraux quand même, hein, laissent penser qu'il y aurait une volonté de sa part d'assurer la sécurité pour tous. Mais enfin, on voit bien qu'elle évite effectivement complètement le sujet et que au mieux, donc, elle le nie et sinon, elle essaie de niveler en mettant un peu tout le monde dans le même sac. C'est vrai qu'il y a les Rohingyas, il y a aussi les musulmans d'une façon générale, d'autres minorités qui sont concernées. Mais enfin, les Rohingyas mériteraient une attention toute particulière, ne serait-ce que par les violences qui leur sont infligées.
Alors, il y a une autre partie dans cette crise, Martin Michalon, c'est le Bangladesh, évidemment, puisque c'est le pays de destination des réfugiés Rohingyas. Quelle est sa position, son attitude? On a quand même assez clairement l'impression qu'il ne tient pas du tout à les garder chez lui.
Non, effectivement, de toute façon, c'est une position qu'ils ont eue déjà par le passé, dans les années 70-80, lors des mouvements, lors des précédentes offensives de l'armée contre les populations musulmanes d'Arakan. Le Bangladesh poussait fortement ces populations à rentrer chez elles.
On va préciser que le Bangladesh, c'est un des pays où la densité de population au monde est le plus élevée. Hein,
absolument.
Donc il n'y a pas tellement de place, en fait.
Absolument, il n'y a pas de place, il y a très peu de capacités matérielles et humaines à consacrer à ces réfugiés-là. Donc il me semble en effet que le Bangladesh préfère un règlement rapide de la situation et c'est d'ailleurs l'objet de l'accord de rapatriement qui a été signé avec les Birmans.
Alors on va en parler. Jean-François Dubost, vous avez évidemment des contacts de l'autre côté, là où sont les réfugiés, du côté du Bangladesh. Comment vous appréciez-vous le rôle du Bangladesh ?
Écoutez, là, en tout cas, sur cet accord hein, qui a été conclu, sur une résolution qui devrait être discutée à l'ONU le 5 décembre en principe et qui devrait aborder la question du retour des réfugiés, oui, on sent une volonté de s'assurer que les réfugiés retournent au Myanmar. À noter également que même dans les services qui sont offerts, en tout cas enfin, reconnus, offerts oui, aux réfugiés au Bangladesh, on sent qu'il y a une volonté que surtout ils ne s'intègrent pas là-bas, donc avec l'idée d'y rester, donc des cours de Bangladesh leur sont refusés, tout doit se faire dans leur langue, ce genre de pratique, mais qui révèle aussi une volonté de laisser un caractère très temporaire à la crise et pour une solution rapide. Le problème, c'est que cet accord-là sur le retour des réfugiés, pour nous paraît impossible. Et d'ailleurs, la communauté internationale qu'on interpelle en ce moment a un rôle à jouer parce que le retour des réfugiés, quel que soit leur pays, dans leur pays, doit se faire dans des conditions de sécurité. C'est pas simplement la sécurité physique, mais c'est également l'absence de persécution en cas de retour. Or là, on voit qu'il y a un système d'apartheid qui est mis en place. S'il n'est pas démantelé, ce qui peut prendre un petit peu de temps, les réfugiés ne pourront pas bénéficier d'un retour en sécurité. Ce qui explique que bon nombre d'entre eux ont quand même très très peur de rentrer aujourd'hui, même si les zones où ils vivaient ne sont plus nécessairement visées par les forces armées, parce que leur quotidien est juste insupportable. On leur refuse tout, l'accès aux hôpitaux, aux écoles, l'accès à la citoyenneté, on l'a dit, l'accès au travail, à la culture, les déplacements.
Une prison à ciel ouvert, quoi.
Oui, complètement. C'était d'ailleurs le titre de notre rapport. C'est vrai, le dernier rapport sur la question. Donc c'est tout ça qui est derrière. Donc un retour peut paraître bon, mais en réalité, quand on regarde dans le détail, si le système d'apartheid continue, ce n'est pas possible. Donc juste pour dire que la communauté internationale a un rôle pour vérifier ça et donc éviter hein, que le retour soit précipité, mais surtout vienne en aide au Bangladesh, parce que c'est un premier pays d'accueil parmi d'autres, et que la communauté internationale, les États les plus riches, ont un devoir, une obligation de solidarité avec les États qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés, soit en finançant, soit en prenant, en rapatriant sur leur propre territoire des réfugiés qui seraient arrivés au Bangladesh.
Alors l'accord entre les deux pays, vous en avez tous les deux parlé, on va peut-être aller un petit peu plus loin là-dessus, c'est assez imprécis en fait. Et qu'est-ce qu'on en sait, Martin Michalon, de cet accord de rapatriement ?
Écoutez, cet accord de rapatriement, il tient sur une page et demie en format A4, il me semble. C'est un accord relativement vague.
Comme cette émission de 20 minutes ce soir. C'est exactement ça.
Tout à fait, tout à fait. Mais en moins précis.
Merci à vous.
Donc les parties en présence s'engagent à un rapatriement d'une certaine manière au plus vite et dans les meilleures conditions. Mais en tout cas, c'est très flou et je pense que c'est flou précisément parce que personne ne sait comment sortir de cette situation. Cet accord apparaît évidemment comme une caution donnée à la communauté internationale. Peut-être d'ailleurs comme un signe de bonne volonté de la part d'Aung San Suu Kyi. J'ai dit qu'elle était pieds et poings liés, peut-être que c'est le genre de micro-signaux qu'elle peut envoyer pour se distancier peut-être de l'armée. Je pense qu'Aung San Suu Kyi doit se contenter de micro-signaux à la communauté internationale. Donc en espérant que ça puisse marcher, même si évidemment les personnes de terrain savent que ça sera très très difficile à mettre en œuvre effectivement.
Effectivement, la communauté internationale qui est concernée, mais qui a un peu de mal, par exemple des États-Unis qui ont elle aussi parler de nettoyage ethnique, qui ont un peu de mal à aller plus loin dans la pression. Merci à vous, Martin Michalon. Merci Jean-François Dubos, qui était au téléphone pour Amnesty International. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à Florence Pons, à Éléonore Krenik, à Vanadis Feuille et à Quentin Bresson, qui était à la réalisation. Prochain débat demain, même heure.